Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Nicole Belloubet, invitée de BFM Politique. Madame Belloubet, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interpeller directement la nouvelle ministre de l'Éducation nationale en scannant le QR code qui apparaît à la droite de l'écran. Jusqu'ici, nous relayerons vos questions tout au long de l'émission. Nicole Belloubet, pour commencer, je voudrais qu'on aborde l'un des sujets les plus sensibles que vous avez à gérer, la réforme du collège et la question des groupes de niveau promis par votre prédécesseur et désormais Premier ministre, Gabriel Attal. Tous les syndicats de l'éducation nationale y sont opposés. Est-ce que vous nous confirmez qu'à la rentrée de septembre, il y aura bien des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de 6e et de 5e?
Moi, ce que je vous confirme, Monsieur Duhamel, c'est que nous avons un constat qui est partagé avec les enseignants et sans doute aussi avec les familles, c'est que les résultats scolaires ne sont pas excellents. Nous le voyons dans les enquêtes PISA, mais aussi dans d'autres enquêtes. Oui. Effectivement, les résultats en mathématiques, en français, oui, diminuent si l'on regarde ce que nous disent ces enquêtes. Je ne cite pas ici le nombre de points que nous perdons, mais bon. Donc, ça veut dire que notre système scolaire, tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas efficace ou pas suffisamment efficace. Malgré l'investissement des profs, pas suffisamment efficace. Donc, le président de la République comme le Premier ministre ont voulu un choc des savoirs. Mmh. Et je crois que ce mot-là dit bien l'énergie collective que nous avons à mettre dans le système. Mmh. Choc des savoirs, surtout au niveau du collège, parce que je rappelle ici qu'à l'école primaire, il y a eu déjà, depuis 2017, un certain nombre d'avancées, puisque les classes de CP, CE1 ont été dédoublées. Ouais. Et que nous n'en avons pas encore les résultats, oui, puisque les élèves ne sont pas encore arrivés au collège. Bon, donc nous avons décidé ensemble.
Et donc sur ces groupes de niveau,
je vous réponds. Je vous réponds, mais laissez-moi le temps de le faire. Oui. Ce que je vous réponds également, et juste après, je vous donne ma réponse, c'est que le collège non seulement ne remédie pas aux inégalités scolaires, mais que celles-ci sont surtout corrélées et demeurent corrélées aux inégalités socio-économiques. Et donc c'est évidemment ça qui est grave. Alors, ce que nous avons décidé de faire, et c'est Gabriel Attal qui l'avait annoncé, c'est évidemment de travailler sur les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire sur le français et sur les maths. Vraiment de travailler sur ces deux matières, qui sont les deux matières fondamentales, qui permettent ensuite aux élèves d'acquérir de l'aisance dans les autres apprentissages. Ouais. Pour cela, je souhaite effectivement que nous puissions travailler en groupe, qui correspondent à une prise en charge individualiser des élèves selon leur niveau de compétence, selon leur capacité à agir. Je souhaite que nous puissions également, dans chaque établissement scolaire, mesurer la manière dont se mettent en place ces groupes. Je crois que c'est tout à fait indispensable. Et c'est cela que nous allons faire. Mais cela seul ne suffit pas. Nous devons également développer la formation continue, c'est capital.
Et on va revenir, Nicole Belloubet, sur tous ces sujets, mais restons bien sur la question des groupes de niveau, Amandine Atalaya.
Oui, simplement, pourquoi est-ce que vous ne dites pas groupe de niveau, comme le disait Gabriel Attal, qui assumait ce vocabulaire? Ça peut donner l'impression que vous hésitez à employer le mot.
Vous savez, le nominalisme est une chose, la réalité en est une autre. Moi, ce qui m'importe, c'est que dans chaque établissement, nous puissions mettre en place
ces niveaux.
Si vous me laissez répondre, allez-y. Ce qui m'importe, c'est que dans chaque établissement, en prenant en compte la situation de chacun des établissements, qui n'est pas la même à Saint-Denis, par exemple, qu'à Nocelles dans l'Aveyron, ce ne sont pas les mêmes situations, que les chefs d'établissement, avec leurs équipes pédagogiques, puissent travailler sur la mise en place de ces niveaux. Je le dis devant vous, il y aura plusieurs niveaux par classe, que ces niveaux correspondront à la capacité des élèves de mesurer telle ou telle compétence, tel ou tel apprentissage. C'est cela que nous voulons faire. Aider les jeunes.
C'est pas seulement un sujet sémantique, parce qu'on voit bien qu'il y a une très forte crispation de la part des organisations syndicales. On y reviendra dans un instant. Donc, il y aura bien ces groupes de niveau à la rentrée septembre pour les 6e et les 5e.
Je vais me répéter, Monsieur Duhamel, il y aura la possibilité pour chaque classe de prendre en charge des élèves en groupe. L'importance pour moi, elle est là. Oui. Elle est vraiment là.
Question d'Olivier Beaumont.
Oui, Madame la Ministre, les élèves les plus en difficulté sont souvent ceux qui sont issus des milieux les plus précaires.
Je vous l'ai dit à l'instant. Alors, le collège ne remédie pas à cela.
Exactement, vous avez parlé de corrélation des inégalités socio-économiques.
Tout à fait.
Et l'inverse étant aussi que ceux qui sont issus des milieux les plus favorisés sont ceux qui réussissent le mieux. Comment éviter justement cet écueil et ce risque de sorte de tri social avec ces groupes de niveau ?
Je l'ai dit très clairement dès ma prise de fonction, je refuserai tout système de tri social dans notre collège.
Et comment l'éviter alors ?
Eh bien, on l'évite justement en travaillant avec les équipes pédagogiques qui, à différentes étapes dans l'année, pourront vérifier comment les élèves d'un groupe qui est en compétences faibles sur tel niveau est en capacité de les avoir acquises et de changer de groupe. C'est cela que nous souhaitons faire.
C'est-à-dire que, pour bien comprendre, vous nous dites au fond, ces groupes de niveau-là seront flexibles tout au long de l'année pour qu'on puisse en sortir.
Le brassage, c'est ce qui fait notre société, c'est ce qui fait notre nation. À l'école aussi, nous devons brasser les jeunes. Il faut maintenir des classes hétérogènes, nous le savons, mais, toute la recherche scientifique
mais ça,
le dit.
Nicole Belloubet, moi je l'entends parfaitement, mais on est bien d'accord sur le postulat que les élèves qui sont le plus en difficulté sont souvent les plus défavorisés.
C'est la raison.
On est d'accord là-dessus.
On est d'accord là-dessus. C'est la raison pour laquelle il faudra à certains moments les prendre à part pour leur donner des compétences au niveau des autres dans tel ou tel domaine, et puis ensuite, à certains moments, rebrasser dans les
classes. Mais donc, il y aura bien, à un moment donné, une concentration d'élèves les plus en difficulté et donc les plus défavorisés.
Mais monsieur Duhamel, un élève peut être en difficulté sur telle compétence, par exemple l'affluence en français, et il peut être meilleur, en moins grande difficulté sur telle autre compétence en maths. Donc, il n'y aura pas le groupe des mauvais, si c'est ça que vous voulez me faire dire, et le groupe des bons.
Donc, ça veut dire que c'est des groupes de niveau, mais il n'y aura pas des groupes avec les mauvais et les bons.
Je n'ai pas dit ça. Je ne suis peut-être pas très claire. Je vous dis que suivant la nature des apprentissages à acquérir, tel élève pourra être dans le groupe, disons, en difficulté sur cette compétence-là, mais qu'en même temps, sur une autre compétence, il ne sera pas forcément dans le groupe des élèves en difficulté.
Amandine.
Parce qu'au-delà du tri social, précisément, si des élèves se retrouvent de temps à autre dans le groupe des plus faibles, le risque, c'est quand même qu'ils puissent se sentir stigmatisés, pensent beaucoup de parents, démontrent plusieurs travaux scientifiques.
Je refuse cela. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que lorsqu'une compétence n'est pas maîtrisée, on peut être dans le groupe des apprentissages à reprendre. Mm-hmm. Mais qu'ailleurs, en même temps, au même moment, on peut être dans un autre groupe. Et que cela évite un tri social et une filière que je refuse absolument.
Oui, mais la question, Nicole Belloubet, que vous pose Amandine, c'est celle de l'efficacité pédagogique, d'avoir, même si vous parlez d'une partie d'un enseignement, de se dire que ceux qui sont en difficulté seront, en quelque sorte, séparés des meilleurs, et que l'idée, c'est qu'à ce moment-là, ce que disent les chercheurs ou la plupart des travaux scientifiques, c'est qu'à ce moment-là, il y a un risque non seulement de stigmatisation pour ces élèves-là,
mais aussi
de manque d'émulation.
Il y a un risque de stigmatisation si vous les laissez tout le temps dans le groupe des gens les plus faibles. Oui. Mais si, à certains moments, ils sont dans un autre groupe, sur un autre type d'apprentissage, si à certains moments, ils sont dans la classe hétérogène, qui demeure dans l'ensemble des disciplines, la classe sera hétérogène.
C'est-à-dire que ça reste le principe sur lequel vous ne transigerez pas.
Non, les classes seront hétérogènes. D'ailleurs, Gabriel Attal n'a jamais dit autre chose. Les classes demeurent hétérogènes.
Non, juste parce qu'on ne va pas faire... Voilà, mais
les classes demeurent hétérogènes.
Vous avez raison.
Il y aura des groupes, y compris des groupes de 15, quand les enfants seront en difficulté sur tel ou tel apprentissage. Donc, il y aura des groupes, mais ces groupes seront flexibles. Le brassage demeurera dans les classes entières. C'est indispensable pour éviter la filiarisation.
Mais j'insiste sur le fait qu'il me semble, pour avoir bien écouté les discours de Gabriel Attal pendant 5 mois, que vous êtes moins affirmative sur cette idée de faire des groupes entre les bons et les moins bons qu'il ne l'était.
Je suis totalement affirmative sur le fait que nous travaillons sur la réussite scolaire des élèves. Mmh. C'est notre premier objectif et je mettrai tout en œuvre pour cela, en prenant en compte ce que me dit le terrain.
Olivier.
Alors, il y a aussi la question des moyens, parce qu'effectivement, le Premier ministre avait annoncé la création de 2000 postes de plus au collège pour créer ces groupes de niveau. Les syndicats disent déjà que ça ne suffira pas, sachant aussi, vous le savez très bien, on manque de professeurs dans certaines de ces matières, particulièrement des mathématiques. Où est-ce que vous allez trouver des profs en plus pour assurer ces groupes de niveau ?
C'est ce à quoi nous travaillons dès maintenant, pour la rentrée prochaine. Donc, si vous voulez, nous travaillons à la fois sur le recrutement de nouveaux enseignants, dont une partie, évidemment, seront des contractuels, Nous travaillons cela. Et puis, nous travaillons également sur un autre champ qui est tout à fait indispensable pour la réussite des élèves, c'est la formation continue.
D'accord, mais sur, sur les 2000, puisque c'est le curseur qui a été fixé par Gabriel Attal, est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que vous serez déjà en mesure de tenir, ne serait-ce que, même si ce n'est pas jugé suffisant par les syndicats, est-ce que ce chiffre de 2000 postes en plus sera garanti pour la rentrée de septembre 2024?
J'y travaille doublement. D'une part, avec les organisations syndicales que je reçois actuellement et avec lesquelles je dialogue et que j'écoute, évidemment. Et j'y travaille également dans les orientations avec le Premier ministre.
Nicole Belloubet, vous parliez mardi dernier sur France Inter de votre volonté de réformer, mais aussi d'apaiser. Est-ce que c'est vraiment de l'apaisement que d'aller à l'encontre de tous les acteurs éducatifs sur cette question des groupes de niveau? Puisqu'ils se sont exprimés au CSE, c'est l'équivalent du Parlement de l'éducation, zéro voix en faveur. Tous les syndicats se sont opposés à cette mesure.
Oui, mais tous les syndicats se sont opposés peut-être à la manière dont certaines choses pouvaient être écrites. Mais on dépasse cela et nous travaillons avec les organisations syndicales sur la manière d'appliquer les choses concrètement. Parce qu'ils se sont peut-être opposés sur tel ou tel texte, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas l'objectif et les travaux en groupe. Et c'est cela que nous cherchons à faire.
C'est-à-dire que si je vous écoute bien, vous pourriez assouplir en écoutant les demandes des organisations syndicales, ce dispositif?
Je souhaite que l'objectif qui a été fixé par Gabriel Attal, qui est maintenant Premier ministre, et par le Président de la République, soit atteint. C'est celui d'une meilleure réussite scolaire.
Ça, tout le monde d'accord, est d'accord.
Mais c'est déjà important.
Mais là, il y a tous les syndicats.
Sont opposés.
Il n'y a pas que les syndicats, il y a aussi les chefs d'établissement qui, eux, sont très inquiets. Je parle d'usine à gaz.
Je les rencontre, je travaille avec eux et nous envisageons la manière d'appliquer les choses concrètement. C'est cela qui m'importe. Donc, je vous le redis, je suis en train de travailler avec les organisations syndicales d'une part, mais aussi sur le terrain pour voir comment nous pouvons appliquer cet objectif premier concrètement.
Mais dans les détails, l'assouplissement de cette mesure n'est pas un gros mot.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, assouplissement. Moi, je suis pour la concrétisation de l'efficacité scolaire.
Amandine Natalia, question sur une autre réforme.
Oui, puisque votre nomination a conduit à ce que l'on reparle de propos que vous aviez tenus dans une tribune écrite en 2016, qui était assez large, qui portait sur la façon de mieux payer les enseignants, de décentraliser. Et vous disiez aussi, dans cette même tribune, vous dénonciez les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Comment est-ce que l'on peut, en 2016, dénoncer les fariboles de l'autorité et le port de la blouse et, en 2024, promouvoir le développement de la tenue unique pour les élèves?
Alors, j'ai bien vu que cette tribune était la première chose qui sortait sur Internet quand on tape mon nom, mais j'ai écrit beaucoup d'autres choses sur l'école auxquelles je vous renvoie. Il se trouve que cet article-là portait essentiellement, vous l'avez dit, sur un autre sujet, c'est-à-dire surtout sur les relations avec les collectivités territoriales et sur l'autonomie pédagogique au plus près des établissements. Mais peu importe, j'ai toujours pensé, et j'ai écrit là-dessus, que dans une classe, comme dans une école d'ailleurs, pour maîtriser les savoirs, il fallait qu'il y ait des règles, que ces règles soient respectées, que l'autorité des enseignants soit assurée. Et ça, c'est un triptyque qui, pour moi, est indispensable.
Mais ça ne change rien au fait que vous balayiez autorité. D'un revers de main, à l'époque, l'efficacité précisément du port de l'uniforme,
cet article portait sur autre chose. Je veux bien que vous cherchiez à me mettre en difficulté, mais ce n'est pas l'objet.
Je voudrais juste que vous précisiez qu'est-ce que vous entendiez à l'époque.
Je suis en train de la préciser. Je disais dans ce sens-là, à l'époque, que ce n'était pas le sujet principal de l'article. Voilà.
Quand vous dites fariboles du retour du port de la blouse, ça veut dire que quand on a la charge du destin de l'éducation nationale, on considère que la question du retour de la blouse est quantité négligeable
pour assurer la réussite des élèves. Dans l'article que j'écrivais à l'époque, qui parle beaucoup de cartes des formations professionnelles, que l'important c'était de travailler avec les régions, que l'important c'était de travailler avec les établissements. Cette phrase est
Donc vous n'avez pas changé d'avis?
Je suis en train de vous dire le contraire, c'est-à-dire que pour moi, il y a dans une école comme dans une classe des règles qui doivent être respectées et qui doivent asseoir l'autorité des enseignants. J'ai longtemps écrit et c'est ce que je crois toujours.
Nicole Belloubet, il y a la question de l'autorité et il y a la question de port de la blouse, que vous appeliez en 2016 port de la blouse, qui est aujourd'hui, on appelle comme on veut, uniforme, tenue unique. Est-ce que là-dessus, vous avez changé d'avis?
Je n'ai pas changé d'avis. Nous lançons une expérimentation sur la tenue des élèves. Cette expérimentation, ouais. elle doit avoir lieu. Elle a un intérêt parce que, au fond, on l'a dit, c'est l'idée non pas d'abolir les différences, mais plutôt de créer de l'unité, de créer un sentiment d'appartenance, d'essayer de vraiment de travailler sur cette notion d'égalité. Une expérimentation est lancée. Nous allons voir Donc. Ce qu'elle donne. Et nous espérons vraiment qu'en 2006, nous pourrons en tirer, en 2026, nous pourrons en tirer des conséquences.
Donc, le port de la blouse n'est plus une faribole.
Moi, je l'ai portée des années, la blouse. Alors.
Oui, mais raison de plus pour qu'on l'on puisse s'étonner que vous ayez tenu ces propos par rapport à l'agenda qui est le vôtre aujourd'hui.
Étonnez-vous, moi, je sais ce que je pense et je pense que la règle, oui. le respect de la règle, oui. l'autorité des enseignants, c'est capital. Que la tenue unique, c'est quelque chose qui va être expérimenté. Nous allons voir quels en sont les résultats.
Question d'Olivier sur précisément l'application concrète de cette expérimentation.
Et oui, parce que l'objectif, c'est d'avoir effectivement une centaine d'établissements tests sur l'ensemble du territoire. Au début, quand l'annonce a été faite, beaucoup d'établissements et de collectivités se sont portés volontaires. Et on voit que les semaines passant, certaines ont commencé à reculer. Hein, une quinzaine de groupes scolaires se sont déjà retirés de l'expérimentation, faute d'accord avec la communauté éducative. On a le sentiment que ça commence plutôt mal, non ?
Écoutez, nous avons fixé une centaine d'établissements. Au moment où nous parlons, je crois qu'il y a 87 établissements qui sont engagés.
C'est une information, ça. Validé. Le dossier validé.
Il y a 87 établissements qui ont donné leur accord. Mmh. Vous savez qu'il y a un double verrou. Il faut l'accord du conseil d'administration et du conseil d'école et bien entendu de la collectivité territoriale. Voilà, nous, on ne veut forcer la main à personne. On dit tentons cela pour. Essayer de freiner les discriminations, de donner ce sentiment d'appartenance. Tentons cela.
Mais vous y croyez vraiment au fond de vous ?
Et surtout, accompagnons cette expérimentation par une évaluation objective. Ouais. Nous sommes actuellement en train de lancer le recrutement d'équipes d'évaluateurs indépendants qui verront ce que donne cette expérimentation.
Nicole Belloubet, votre intime conviction sur cette question de l'uniforme ou de la tenue unique. C'est vraiment que ça peut changer quelque chose en termes de discrimination ou d'inégalité ?
Nous allons voir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être essayé, qui doit être tenté pour voir les conséquences
Mais précisément,
ça.
Comment est-ce que vous allez dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Puisqu'en 2026, si ça fonctionne, c'est généralisé, a dit Emmanuel Macron, selon... Oui. Quels critères ?
Eh bien, nous allons, comme je vous l'ai dit à l'instant, mettre en place une équipe d'évaluation qui sera composée sans doute d'universitaires qui travailleront sur ces sujets, qui établiront des critères de positifs ou négatifs sur le bien-être, sur la qualité des apprentissages, et nous verrons ce que donne cette évaluation indépendante, bien sûr.
Sur la question de la lutte contre les inégalités, vous savez très bien que même s'il y a une tenue unique, les élèves se distingueront par les bijoux qu'ils portent, par le fait de savoir s'ils ont ou non le dernier téléphone portable qui est sorti. Est-ce que ce n'est pas une chimère absolue de penser que le fait d'avoir le même polo et le même pantalon va changer quoi que ce soit
je ne crois pas
en termes d'inégalité ?
Je ne crois pas que ce soit une chimère absolue, mais je veux, encore une fois, je ne m'avancerai pas, j'attendrai les résultats de cette évaluation. Je ne crois pas que ce soit une chimère absolue, cela peut aussi, je vous le dis, donner ce sentiment de communauté. Au fond, qu'est-ce qu'on veut faire à l'école ? On veut donner le sentiment d'adhésion à une communauté tout en respectant les différences. Il me semble que ça peut y contribuer. En tout cas, nous verrons à la fin de l'expérience.
Question d'Olivier sur le coût de cette mesure.
Et oui, exactement, parce que c'est quand même une mesure qui est très partagée, enfin qui est plutôt divise en tout cas l'opinion française. Il y a la question du coût. Chaque trousseau coûtera environ 200 euros. Alors, rien n'a la charge des familles, en tout cas dans un premier temps. Ce sera réparti entre l'État et puis les collectivités territoriales.
Absolument.
Dans un moment, dans un contexte économique où on cherche à faire des économies, 10 milliards d'euros, est-ce que finalement il n'y avait pas d'autres moyens de flécher la dépense publique que sur le sujet de l'uniforme ?
Je vous le dis, c'est une expérimentation. Son impact financier est quand même limité puisqu'on va travailler sur une centaine d'établissements. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Ça fera à peu près 20 000 élèves. Bon, je pense que c'est tout à fait mesurable et supportable.
Ce ne sera pas supporté la première année par les familles. Qu'est-ce qui garantit que sur le long terme, il n'y aura jamais rien de demandé aux familles
sur la
participation ?
Nous sommes dans cette optique-là.
Ça veut dire que, parce que donc, quand on voit les trousseaux aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vêtements. Il y a souvent un ou deux polos.
Un pull et
deux t-shirts et un pull.
Ça veut dire que toute l'année, les élèves vont porter le même pull, le même t-shirt, le même pantalon ?
Je crois que nous allons mettre en place un système de bourse d'échange pour voir comment nous pouvons donner aux familles la possibilité d'avoir de nouveaux vêtements.
Parce que sinon, en fait, ça recrée de la discrimination. C'est-à-dire que les plus riches achètent 5 polos pour leurs familles et les plus pauvres mettent le même polo.
Non, ce sera donné aux familles, elles auront cet équipement-là, si on peut dire.
On continue notre discussion sur les grands sujets de l'éducation nationale. Nicole Belloubet, dans un tout petit instant, restez avec nous dans BFM Politique.
Je reste.
BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, invitée de BFM Politique. Madame Belloubet, une question d'une téléspectatrice. Voilà ce que vous demande Catherine. Faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires? Je précise que c'est la proposition qui est faite notamment à droite. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par les sénateurs centristes. Et je précise aussi que vous avez été membre du Conseil constitutionnel et que donc vous connaissez par cœur cette question précisément du droit de grève consacré par la Constitution. Faut-il donc interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires ?
Alors écoutez, moi j'ai conscience des difficultés là que subissent nos concitoyens, aussi bien dans leur départ que peut-être leur retour de vacances. Mmh. J'en ai vraiment conscience. Je pense que le droit de grève, c'est un droit qui est protégé par la Constitution. Et donc... Je ne suis pas évidemment au cœur de ce type de dossier actuellement, mais il me semble qu'on devrait compter sur la responsabilité de chacun des acteurs pour éviter ce type de situation. Il me semble que les personnels qui se mettent en grève devraient aussi avoir le souci de ce que vivent nos concitoyens et la direction de la SNCF devrait peut-être également voir comment anticiper les négociations. Je ne suis pas certaine qu'il faille passer par la loi.
Oui.
Parce que je ne suis pas certaine que cela serait vraiment constitutionnel.
C'est ça, c'est-à-dire l'idée de dire pendant ce que proposent les centristes, 60 jours par an, ça ne passerait pas les fourches codines du Conseil constitutionnel.
Je ne suis plus membre du Conseil constitutionnel, mais je trouverais cela un petit peu curieux.
Nicole Belloubet, un mot sur les économies que cherche le gouvernement. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, devrait annoncer ce soir un plan justement pour faire des économies dans les finances publiques, avec par ailleurs une révision à la baisse de la croissance. Est-ce que le budget de l'éducation nationale va être mis à contribution ?
Évidemment, comme au sein de l'ensemble des ministères, j'imagine que le budget du ministère de l'Éducation nationale devra participer de cette réflexion sur la recherche d'économies. Bon, nous devons distinguer entre les flux financiers et d'une certaine manière les emplois qui se traduisent certes en masse financière in fine, mais on a tout de même des cases différentes, si je puis dire. Et donc
le budget n'est pas sanctuarisé. Il n'y a pas l'idée qu'on ne toucherait pas l'éducation nationale.
Ce qui importe, c'est que nous ayons vraiment les moyens en personnel de faire fonctionner notre système éducatif. Ensuite, nous allons regarder sur quel chapitre nous pouvons faire
des économies.
Alors, un sujet sensible et qui revient régulièrement sur la table des revendications, c'est la question des salaires des enseignants. Les syndicats demandent à remettre ce sujet sur la table. Alors certes, il y a une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires à l'automne dernier. Il y a le fameux pacte enseignant qui permet pour les enseignants volontaires uniquement de pouvoir bénéficier d'heures supplémentaires défiscalisées. Mais malgré tout, on voit bien qu'au niveau européen, les enseignants français sont parmi les moins bien payés. Est-ce que ce sujet-là doit être mis sur la table? Est-ce que vous pourriez accéder à la demande des syndicats et des enseignants en général?
Alors d'abord, ce que vous dites n'est plus tout à fait vrai, du moins sur l'intégralité de la carrière des enseignants. Je parle de la comparaison avec les autres pays européens. Un effort tout à fait important a été effectué par les précédents gouvernements pour revaloriser le salaire des enseignants.
Qui était perçu comme un petit rattrapage.
De début de carrière. Mmh. Et c'est évidemment important parce que du coup, en ce qui concerne, je sais bien que ce n'est pas la vraie vie, mais enfin, si nous regardons les comparaisons internationales, nous sommes au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE
pour ceux qui ont, par exemple, 20 ans d'ancienneté, on voit bien qu'effectivement...
Cela joue aussi en fin de carrière. Il y a eu des revalorisations qui jouent également en fin de carrière. Donc, notre difficulté actuellement, c'est plutôt le milieu de carrière. Et donc, nous allons travailler avec, évidemment, les organisations représentatives pour voir de quelle manière nous pouvons...
Est-ce que vous battrez, vous, Nicole Belloubet, auprès d'Emmanuel Macron, pour de nouvelles revalorisations pour les enseignants? Ça pourrait être un de vos combats.
Je porterai les exigences de l'éducation nationale, mais forcément aussi, je suis dans une solidarité gouvernementale. Donc, c'est les deux pieds.
Et en 2016, dans votre fameuse tribune, vous disiez qu'il faut mieux rémunérer les enseignants, mais qu'ils soient payés, par exemple, comme les enseignants allemands.
C'est ce que je vous dis, madame. Nous avons déjà fait cet effort pour le début de carrière. Non, j'ai dit en début de carrière. Je ne travestis pas la réalité.
Nicole Belloubet, en octobre dernier, après l'attentat terroriste d'Arras et la mort de Dominique Bernard, votre prédécesseur, Gabriel Attal, avait annoncé vouloir sortir des établissements scolaires les élèves radicalisés, les plus dangereux, au nom, disait-il, du principe de précaution. C'était il y a 4 mois. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce projet ?
Alors, il y aurait actuellement, si notre décompte est juste, il y aurait environ 500 élèves l'ensemble de nos élèves qui seraient dans des processus de radicalisation. Mm-hmm. Parmi ceux-ci, 160 environ seraient dans ce que l'on appelle le haut de spectre, c'est-à-dire les élèves qui seraient les plus radicalisés. Mmh. Effectivement, nous ne pouvons pas les laisser dans une classe sans rien faire. Et donc, nous sommes en train actuellement, à ma connaissance, les choses n'ont pas été complètement mises en place, mais nous travaillons avec l'ensemble des équipes pour voir comment nous allons pouvoir prendre en charge ces élèves de manière précise, hors de leur classe.
Vous dites pas complètement mise en place. Concrètement, ces 160 élèves les plus dangereux, ils sont où en ce moment ?
Je pense qu'ils sont dans des établissements scolaires, particulièrement surveillés et encadrés. Ouais. J'arrive, ça fait une semaine que je suis là, il faut que je prenne ce dossier en charge pour vraiment apporter une réponse satisfaisante.
Mais donc, ils sont encore dans les classes ?
Ils sont dans des classes.
Oui, ils sont dans leur classe.
Je ne sais pas s'ils sont dans leur classe, ils sont dans des classes, dans des établissements, mais il faut que je voie comment il faut les traiter. Vous savez, quand j'étais ministre de la Justice, j'ai beaucoup travaillé sur les mineurs radicalisés. Et donc, nous sommes un peu dans ce même schéma-là. J'avais mis en place des processus de prise en charge singuliers, vraiment. Il y avait plusieurs types d'éducateurs qui les prenaient en charge. Je vais voir si nous pouvons traiter ces élèves-là de cette manière.
Mais sans esprit de polémique, Nicole Belloubet, quand on écoutait Gabriel Attal au mois d'octobre, il expliquait qu'il y avait urgence à sortir des établissements ces élèves pour protéger les professeurs. Oui. On est 4 mois plus tard. Certes, vous venez d'arriver à l'éducation, vous avez tout à fait raison, mais comprenez que les professeurs qui nous regardent se disent en fait c'était de la com', puisque 4 mois plus tard...
Non, écoutez, je ne veux pas dire de bêtises sur ce sujet-là et je demande une petite semaine supplémentaire pour mesurer ce qui a été fait et ce que l'on va pouvoir faire. Mais je ne laisserai pas les professeurs en situation de difficulté. Oui. Moi, vraiment, et ça rejoint un peu ce que nous disions sur l'autorité, mais aussi d'ailleurs sur la laïcité, mon souci, c'est d'être en permanence aux côtés des enseignants. Oui. Je ne supporte pas le silence rampant,
le pas de vague.
Oui. C'est impossible, c'est impensable.
Mais Nicole Belloubet, et donc, c'est ça que je veux traiter. Aller où, en fait, ces élèves qui ont été signalés ? Parce que vous savez qu'ils sont très nombreux à dire aujourd'hui, c'est infaisable. Il y a même d'ailleurs nos confrères de Mediapart qui révèlent qu'il y a eu un rapport de 3 inspections ministérielles qui désapprouvent cette mesure pour des raisons à la fois sécuritaires et juridiques. Donc, vous croyez-vous que c'est faisable de les sortir et pour les mettre...
Je pense qu'on peut prendre des élèves en charge. Franchement, ce que j'ai fait à la justice, aussi bien sur les mineurs radicalisés qui étaient hors des établissements carcéraux, et sur les autres, je pense que nous avons des modalités de prise en charge particulières. Mmh. Évidemment, ça doit être parfaitement ciblé. Ben, on les sort de leur classe, on les prend en charge par des équipes éducatives et nous mesurons ensuite à quel moment nous pouvons... Ah si, c'est faisable. Mmh. Ça, franchement, c'est faisable. Je n'ai pas dit que c'était sans coût, je n'ai pas dit que c'était sans difficulté, je dis que c'est faisable.
En tout cas,
il faut juste que je vois comment cela a été traité jusqu'à présent et que je m'adapte à cela.
Et on vous reposera la question quand vous reviendrez, mais en tout cas, vous nous confirmez qu'en l'état, ces 160 élèves les plus dangereux sont toujours dans des établissements scolaires.
Je crois qu'ils sont toujours dans des établissements scolaires, mais ils ont peut-être un traitement particulier.
Question d'Amandine sur la laïcité.
Oui, puisque on va revenir sur des propos que vous aviez tenus en janvier 2020, lorsque vous étiez à l'époque ministre de la Justice, au sujet de cette jeune fille, Mila, qui avait critiqué l'islam et qui avait été ensuite menacée de mort. Vous aviez dit « L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave ». Vous étiez ensuite revenu sur ces propos, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que certains se disent que pour quelqu'un qui, à l'époque, avait semblé rétablir une forme de délit de blasphème, ces personnes se disent que vous n'êtes pas la plus à même de porter un combat pour la laïcité ?
Jamais. Sur le délit de blasphème, jamais.
Ah bah, quand on dit que l'insulte à la religion, c'est une atteinte à la liberté de conscience, cela. Je ne dis pas que c'est ce que vous pensez,
mais c'est une phrase, forme de délit d'affaires. J'ai eu une phrase totalement maladroite, que je reconnais. J'ai eu la possibilité de m'en expliquer très rapidement après, dans une tribune qui s'intitulait « Le crime de lèse-Dieu n'existe pas », qui dit clairement ce que je pense de ce sujet-là. Et je puis vous dire que je pense souvent à cette jeune Mila, pour laquelle d'ailleurs mes premiers propos lors de l'interview à laquelle vous faites référence avaient été évidemment de venir en soutien
de
cette jeune fille.
Et de dénoncer les menaces de mort dont elle faisait l'objet.
Absolument. Ouais. Donc, si vous voulez, ma pensée là-dessus est extrêmement claire. J'ai eu d'ailleurs l'occasion à diverses reprises dans ma vie professionnelle de dire à quel point la laïcité dans l'école était un pilier indispensable. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons pas travailler sur le vivre ensemble dans l'école si la laïcité n'est pas pleinement respectée.
Et qu'allez-vous faire alors pour ces professeurs qui aujourd'hui précisément disent qu'il y a quand même toujours ce phénomène du pas de vague, c'est difficile de dénoncer,
eh bien, c'est difficile d'avoir des réponses. On a mis en place des équipes académiques de valeur de la République qui viennent à l'appui des professeurs. Nous avons développé des formations, nous avons mis en place vraiment beaucoup de choses pour asseoir le socle régalien dont la laïcité dans nos écoles. Et les professeurs me trouveront toujours à leur côté dès qu'il y aura une atteinte à la laïcité. Je pense notamment à l'abaïa que Gabriel Attal...
Ça, vous êtes totalement en phase
totalement
avec
en phase.
L'idée d'interdire
totalement en phase.
Les abayas.
Mais bien sûr, sans l'ombre d'une hésitation.
Juste pour revenir un instant sur la jeune Mila, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous redites très clairement, on a en France tous les droits, si on veut insulter ou critiquer une religion.
Mais bien sûr.
Il n'y a aucune ambiguïté
là-dessus. Aucune ambiguïté.
Question d'Olivier Beaumont sur votre profil politique.
Eh oui, vous avez été présenté à votre nomination comme un gage de rééquilibrage à gauche dans un gouvernement, une majorité qui tend aujourd'hui à avoir plus de personnalités issues de la droite. Est-ce que vous êtes une femme de gauche, Nicole Belloubet ?
Je suis une femme social-démocrate et je l'ai toujours été,
donc de gauche.
De gauche, oui.
C'est un gros mot, hein.
Non, c'est pas un gros mot.
Oui, oui.
Et justement, ce qui m'a séduit en 2017 chez Emmanuel Macron, c'est le dépassement. Ce sont ses positions européennes, ce sont son souci vraiment de ne pas s'arc-bouter uniquement sur des appartenances et sur ses étiquettes. C'est cela qui m'a séduit en 2017. Et là, moi, je me revendique clairement comme social-démocrate. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Vous êtes une...
Tendance Jaurès. Hein.
Tendance Jaurès.
D'accord. Techno.
Vous êtes une techno ou oui, vous êtes une politique?
J'ai vu que vous aviez plaisir à me coller cette étiquette
moi
de techno.
Moi, non.
Si.
J'ai pas de plaisir. Je constatais juste que dans la typologie de ceux qui sont au gouvernement, entre ceux qui viennent de la société civile ou ceux qui sont des politiques, responsables politiques de premier plan, certes, vous avez été élue, avez été adjointe au maire de Toulouse. Vous étiez plutôt dans la catégorie de ceux qui appartiennent à la société
libre,
civile.
Je vous laisse libre du choix de vos étiquettes. Moi, ce que je peux dire, et comme vous le rappelez, c'est que j'ai été élue pendant plusieurs années, vraiment, je ne sais pas, peut-être 20 ans, que ce soit dans des petites communes, à la ville de Toulouse, à la région Midi-Pyrénées, j'ai été élue. Et je ne crois pas que je sois techno. Moi, mon souci... C'est vraiment, comme le disait Jaurès, dont je parlais à l'instant, c'est l'idéal, aller à l'idéal, mais on part du réel. On regarde ce qui se passe concrètement.
Vous avez eu une phrase un peu étonnante lors de votre premier déplacement. Vous avez dit « je ne suis pas Pape Ndiaye ». Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant ça?
C'est encore une formidable question d'un journaliste qui me disait... Qui me disait « vous êtes Pape Ndiaye ». Ben non, je ne suis pas Pape Ndiaye, je suis moi.
Et ça
veut dire que, si vous voulez, je ne rentre pas dans les chaussures de tel ou tel.
Vous savez que Pape Ndiaye a été d'ailleurs caricaturé parfois comme un homme de gauche, pas grand défenseur de la laïcité, un peu wokiste, disait même une partie de la droite de la droite.
J'apprécie Pape Ndiaye, mais j'ai mes propres opinions et je serai, comme je vous l'ai dit, très attentive à la réussite scolaire.
Si on devait schématiser, vous êtes plus Gabriel Attal que Pape Ndiaye.
Je suis moi.
Et vous n'êtes pas là que pour
pratiquer. Merci pour cette réponse.
Je travaille avec Gabriel Attal et je suis moi.
Alors, vous êtes aussi la cible des oppositions. Encore ce matin, dans les colonnes du JDD, Laurent Wauquiez, qui voit en vous, je le cite, « l'incarnation de la pensée de la déconstruction ». Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je lui réponds cela. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Je ne sais pas si vouloir réellement faire en sorte que dans les classes, les profs, la communauté éducative, les élèves travaillent la réussite scolaire des élèves. Je ne sais pas si c'est de la déconstruction. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Moi, au fond, ma boussole, c'est l'article premier du Code de l'éducation. Je ne vais pas vous le lire, mais cet article premier, je trouve que tout le monde devrait le relire. Il dit trois choses, tout simplement. Il dit « L'éducation, c'est la première priorité de la nation. » Il dit... Et c'est aussi important, l'éducation, c'est deux choses, deux objectifs, la transmission des savoirs et l'apprentissage des valeurs de la République. Et il dit troisièmement, il faut faire confiance à tous les élèves et à leur capacité de progresser et d'apprendre. Voilà, moi c'est ça ma pensée, c'est peut-être une pensée déconstruite, je laisse M. Wauquiez responsable de ses propos, mais ce n'est pas l'impression que j'ai.
Non, juste en une phrase, vous n'êtes pas là que pour appliquer une feuille de route, n'est-ce pas?
Ah bah non.
Vous porterez aussi...
Oui, bien sûr.
Non, parce que par exemple, Gabriel Attal, on a retenu l'uniforme, l'abaya, certains combats. Vos combats, ce serait...
Ma feuille de route, c'est celle que m'a donnée le président de la République et le Premier ministre. C'est la réussite scolaire et c'est les valeurs républicaines. Il se trouve que je partage cette feuille de route.
Nicole Belloubet, ce matin, dans les colonnes du Parisien, l'ancien ministre Olivier Véran dit refuser de banaliser le Rassemblement national et rajoute, ouvrez les guillemets, je ne les considère pas dans l'arc républicain. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Véran?
Alors, il y a plusieurs manières de prendre cette affirmation d'Olivier. Moi, je considère que le Front National, le Rassemblement National, a des élus au Parlement. Et que ces élus, ça fait partie de notre démocratie, il faut le prendre en compte, on ne peut pas faire autrement. En revanche, moi je dis, méfions-nous du Rassemblement National. Je n'adhère pas du tout à leurs idées, mais en plus, je pense qu'il faut s'en méfier, au moins pour deux raisons. Celle du double langage. Et lorsque je vois M. Bardella, qui était absent au Parlement européen lorsque celui-ci a voté la motion de soutien à Navalny, lorsque je vois que c'est bien le Front National à l'époque qui défilait Place Vendôme lorsque Badinter a été nommé ministre de la Justice pour dire Badinter c'est l'avocat des assassins, moi je dis il y a double langage.
On vous entend sur là.
Et il n'y a pas... Le Rassemblement National ne propose, me semble-t-il, aucune solution crédible.
Précisément, Nicole Belloubet, je repose ma question. Est-ce que vous considérez que le Rassemblement National fait partie de l'arc républicain?
Je vous ai répondu. Dans une
je ne suis pas sûr d'avoir totalement...
Dans une démocratie, les élus, me semble-t-il, font partie de cette représentation républicaine.
Donc le RN, ça ne
signifie pas que nous devons collaborer avec le RN, évidemment. Moi, je viens de vous dire mon opposition frontale avec le RN sur bien des sujets. Mais ils ont été
élus. Donc Marine Le Pen est républicaine.
Ils ont été élus et il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Et entendre ce qu'ils ont à dire, ça veut dire pour nous, nous occuper sans doute davantage des préoccupations des
Français. Parce que, en réalité, vous dites, c'est pas pour autant qu'il faut collaborer avec le RN. Ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le président de la République la semaine dernière, c'est que oui, au Parlement, il était normal que vous travailliez avec les élus du Rassemblement National. Est-ce que c'est aussi votre vision des choses? Est-ce que vous assumez de dire que dans votre travail parlementaire, dans le travail au Parlement, vous allez travailler avec les membres du RN?
Je vous le redis, ils ont été élus, donc ils s'expriment, on entend. Pour autant, moi, je suis en tel désaccord de fond avec eux sur la plupart des choses que je ne sais pas comment je vais travailler.
Et vous venez de dire aussi juste, il faut qu'on s'occupe davantage des préoccupations des Français. Mais c'est pas assez le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire, c'est qu'il faut que nous soyons vigilants sur les décisions que nous prenons et sur le fait qu'elles arrivent réellement dans la maison de chacun des Français ou à l'école vivent les enfants de ces Français. C'est ça que je veux dire. Comprenez, quand on décide de la rue de Grenelle qu'on va faire telle chose, si on ne s'assure pas que cela va se traduire par un changement dans la vie des Français qui correspond à ce qu'ils attendent, eh bien, nous ne réussirons
pas. Juste, Nicole Belloubet, pardon de revenir sur le sujet, mais il y a un trouble, parce qu'on est passé d'une Première ministre, Elisabeth Borne, qui disait le RN est l'héritier du maréchal Pétain, à un Premier ministre, Gabriel Attal, qui dit l'arc républicain, c'est les forces représentées dans l'hémicycle, donc il faut travailler avec tout le monde.
Moi, je vous le redis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'élus du Rassemblement National.
Personne ne dit ça. Donc, mais ce n'est pas la même chose que de dire si un parti est l'héritier du maréchal Pétain, ça ne va pas de soi de travailler avec eux.
Il se trouve que moi, je ne suis d'accord sur rien avec eux.
Oui.
Donc, je ne vois pas ce que je pourrais faire de construction positive avec eux.
Alors, si on veut être concret, justement, est-ce que vous, dans le cadre de consultations sur l'école que vous pourriez être amené à mener dans les prochaines semaines, est-ce que vous pourriez recevoir Jordan Bardella et ou Marine Le Pen?
Moi, je travaille avec l'ensemble des organisations syndicales. Je suis en train de les recevoir. J'ai bientôt fini de les recevoir. Je travaille avec l'ensemble des organisations syndicales.
Mais là, vous ne répondez pas à la question.
Je réponds. Évidemment, je réponds.
Parfois, les chefs de parti ou de groupes d'opposition sont consultés par des ministres ou des membres du gouvernement. Vous pourriez les recevoir dans ce cadre-là ?
Bien sûr qu'à leur demande, je les recevrai, bien entendu.
Nicole Belloubet, pour terminer cette émission, deux questions de téléspectateurs et téléspectatrices. Première question que vous pose Valérie. Allez-vous augmenter les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH? 1500 euros brut, c'est peu.
Bien sûr, cette question-là est pour moi une des questions les plus difficiles. Et pour ne rien vous cacher, vous me parliez tout à l'heure de la feuille de route. Pour moi, la question de l'école inclusive, comme l'on dit, c'est-à-dire de l'école qui est en capacité d'accueillir les enfants en difficulté, quelle que soit la nature de leurs difficultés, c'est un point majeur. Et évidemment, les AESH, c'est-à-dire ces jeunes qui vont nous aider pour prendre en charge les élèves en difficulté, c'est essentiel. Il faut que nous en augmentions le nombre et il faut que nous augmentions leurs conditions. Oui, les conditions.
Et alors, l'échéance pour cette augmentation de salaire ?
Il y a actuellement une proposition de loi qui est en cours de débat pour qu'on puisse prendre en charge les heures qu'ils font entre midi et deux, sur tout le hors temps scolaire. Ça, je le suivrai avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est indispensable.
Autre question que vous pose Moussa, Nicole Belloubet, faut-il imposer un respect strict du pluralisme dans les chaînes de télévision ? Moussa fait évidemment référence à la décision du Conseil d'État qui enjoint l'ARCOM, l'autorité régulatrice, à s'assurer non pas seulement du respect du temps de parole des politiques, mais aussi du pluralisme. Cela faisait suite à une saisine de Reporters sans frontières concernant la chaîne CNews.
Ben oui. Évidemment, alors le Conseil d'État, évidemment, a la liberté de prendre la décision qu'il souhaitait, je les respecte beaucoup, mais il me semble que le pluralisme, c'est une composante de la démocratie. Et donc, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution.
Et donc, vous n'êtes pas choqué, vous voyez toutes les réactions politiques expliquant que cette décision va conduire à une restriction de la liberté d'expression?
Non, je ne vois pas en quoi. On peut parfaitement s'exprimer librement, tout en veillant à ce que le pluralisme des idées s'exprime.
Vous considérez aujourd'hui que la chaîne CNews respecte ce pluralisme?
Je regarde assez peu CNews.
Oui, mais vous appartenez au débat public. Est-ce que vous...
Oui, mais je regarde. Il se trouve.
Donc vous n'avez pas d'avis.
Non, je dis simplement, je regarde assez peu CNews. Ouais. J'ose le dire, je regarde assez peu CNews. Et deux, quelle que soit la chaîne ou l'organe, il faut respecter le pluralisme des idées et des expressions.
Et si CNews vous invite, est-ce que vous vous rendrez sur leur plateau?
Mais bien sûr, il n'y a pas de raison.
Donc il y a pas de, il y a certains ministres par exemple, Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, refuse d'aller sur le plateau CNews.
Si le pluralisme est respecté, il y a pas de raison que je ne m'y rende pas. Mais la décision du Conseil d'État joue un rôle important dans ce sens.
Merci beaucoup, Nicole Belloubet, d'avoir été l'invitée de BFM Politique. Merci beaucoup, Amandine Atalaya. Merci, Olivier Beaumont du Parisien. Tout de suite, vous retrouvez Ronald Guintrange et Dominique Rizet pour Affaires Suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h dans C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, Adrien Quatennens, député insoumis du Nord. Belle journée, l'info continue sur BFM TV et vive la politique.